Alors, aujourd'hui, pour continuer notre parcours du temps, on va s'intéresser à la question du siècle selon les textes bibliques. Alors, siècle parce que c'est une période de temps, mais c'est aussi parce que ça va nous montrer, enfin, c'est une occasion de voir que dans les textes bibliques, une notion peut être abordée de façon plurielle et qu'une notion peut avoir plusieurs sens. Et en l'occurrence, un mot peut avoir plusieurs usages. Et donc, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas non plus de pensée unifiée au sein des textes bibliques, qu'il faut donc manier les concepts avec prudence, et qu'on va voir aussi cette pensée qui s'élabore autour de la notion du siècle. Alors, donc, c'est sur la question du siècle, et on va voir un terme grec qu'on avait déjà vu. Je vous l'aurais écrit. Aion. Que l'on peut translittérer en éon. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot éon.
Oui,
Voilà.
dans les siècles,
On l'avait vu, en fait, dans le passage de Kohélet, au chapitre 3. En hébreu, c'est olam. Et c'est donc l'éternité. Et je vous avais dit que Olam, c'était certainement issu d'une racine halam qui signifie caché. Donc on avait déjà vu cela, et ce que disait Colette, c'est que Dieu, c'est ce qui nous met l'intuition de Olam ou de Ayon dans le cœur. Et on va voir comment cette notion Ayon a été utilisée dans les textes bibliques. Alors, avant que ce soit utilisé dans le texte biblique, c'est utilisé dans la philosophie. C'est utilisé, vous le trouvez dans le Timée de Platon, par exemple. Et c'est intéressant parce que c'est en quelque sorte un antiton. Avec les films qui sortent, c'est pas les titans, c'est antiton. C'est-à-dire un non-temps, quelque chose qui n'est pas marqué par l'autre mot qu'on avait vu, c'était le chronos. Comme ça, je vous les mets tous, on pourra les réécrire. L'idée chez Platon, c'est que ce qui est marqué du sceau de l'aïon, c'est ce qui ne s'abîme pas. Autrement dit, c'est ce qui ne subit pas l'outrage du temps. Si vous avez eu l'occasion de lire un peu ou d'entendre des interviews de Paul Ricoeur, c'est un peu l'idée de Paul Ricoeur. L'éternité, ce n'est pas tant quelque chose qui se prolonge à l'infini, ce n'est pas quelque chose d'immortel. L'éternité, c'est d'abord quelque chose qui ne s'abîme pas. Il dit, au fond, c'est comme une étincelle d'absolu. L'apôtre Paul dirait que rien jamais ne pourra, que rien jamais ne pourra nous retirer en fait. Et donc, dans la philosophie grecque, l'aïon, c'est ce qui n'est pas comptable en fait. Donc, si c'est pas comptabilisable, ça ne peut pas s'abîmer, ça ne peut pas dépérir. Et du coup, ça permet d'avoir une autre conséquence, c'est que si ça ne s'abîme pas, si ça ne finit pas, c'est que ce n'est pas créé non plus. C'est l'incréé. Alors l'incréé, c'est souvent utilisé en philosophie par rapport à Dieu. Dieu, c'est l'incréé. Nous qui sommes des créatures, nous avons une fin parce que nous avons un début. Mais pour quelque chose qui ne relève pas de la temporalité, du coup, c'est incréé. La plupart des notions, on peut considérer qu'elles sont incréées. Par exemple, l'amour. L'amour, on peut considérer que c'est incréé, sauf quand c'est un amour sur mesure. Dans quel cas, ça a un début, ça a une fin. Mais l'être de l'amour, en fait, était avant nous et a priori sera après nous. Et cette idée, en fait, va permettre de distinguer l'aïon du chronos en disant le chronos c'est la vie du monde, c'est le bios du cosmos, alors que l'aïon ça va être la vie de Dieu, donc c'est le bios du théos. C'est-à-dire que le théos du coup va avoir cette caractéristique de l'éon, de l'ION, qui est de ne pas avoir de début, de ne pas avoir de fin. Ça, on va le voir avec les passages bibliques que je vous ai mis sur la feuille. Tout le monde a une petite feuille comme ça ?
Cosmos, c'est avec quel cas ? C'est un kappa ?
Non, non. Alors ça, c'est Chronos.
Oui, mais c'est le Chronos.
Le cosmos c'est avec un kappa.
Le cosmos, c'est avec kappa.
Ouais. C'est un qui avec le Chronos. Donc, feuille avec écrit Éon en haut à gauche. Enfin, que ce soit un kappa ou un kiss, pour nous, ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, ce n'est pas un kiss, c'est un ri. Mais bon. Alors, vous avez donc sur votre feuille où il y a écrit Léon de Bruxelles, en haut à gauche, une première phrase tirée de l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 70. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Et si vous regardez la ligne en dessous, qui est donc la version grecque de l'évangile de Luc, vous repérez que le troisième mot avant la fin du verset, c'est donc notre aïon, hein, qui est décliné, mais c'est notre aïon. Et donc, vous voyez, on a traduit aïon par ancien. Et en fait, ça, c'est une première acception du mot aïon. C'est pas tant l'éternité que ce qui s'inscrit dans le passé et loin dans le passé. C'est-à-dire que c'est une façon de désigner une période de temps très longue dans le passé. On trouve cela aussi dans la citation suivante. Cette fois, c'est dans le livre des Actes, toujours de Luc, mais dans le livre des Actes. Donc, le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et donc, vous voyez, anciennement, c'est toujours aïon, et là, c'est toujours aïonos, d'ailleurs, et c'est toujours le troisième mot avant la fin. On entend bien que cette traduction, elle est juste. C'est-à-dire que si on prend le sens de ces deux phrases, c'est bien une parole qui a été dite par le passé, donc une parole ancienne, et l'auteur ne dit pas que c'est une parole éternelle, c'est-à-dire qui irait de l'alpha jusqu'à l'oméga. Ce qu'il veut, c'est montrer l'ancienneté, et parce que c'est ancien, du coup, il y a une autorité qui s'impose. Et du coup, le verset suivant, acte 15, 18, vous voyez, c'est un verset de trois mots en grec, hein, et encore... Apo, c'est un tout petit mot. Il y a des versets comme ça qui sont tout mignons. Donc, elles sont connues de toute éternité. Une fois de plus, c'est Aionos. Ça signifie en fait toujours. C'est ce qu'on appelle la mémoire immémorielle. C'est-à-dire que c'est suffisamment ancien pour qu'on ne sache plus quelle en est l'origine. Il y a en fait une perte de l'origine. Du coup, ça dépasse toute origine possible. C'est ce qui permet aussi de parler de mythe fondateur, parfois. Mythe fondateur, c'est quand, au fond, plus personne n'a connu la période dont on parle. Et des fois, on dit que cette période est sublimée, elle est arrangée, mais ça lui donne aussi de la légitimité. Quand quelqu'un veut utiliser un argument d'autorité, il dit « ça s'est toujours fait comme ça ». Donc de toute éternité, en fait. Ben, c'est Aionos. Et vous voyez, ça ne fait que renvoyer au passé. Donc c'est une qualité vraiment temporelle. Mais du coup, ça peut aussi avoir la même fonction par rapport au futur. C'est l'exemple que je vous ai mis juste après, avec l'épître de Jude. Donc, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Ce n'est pas simplement une histoire de plagiste. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et donc là, c'est une projection vers le futur. C'est-à-dire, c'est l'idée de « à jamais ».
Là, l'éternité n'est pas une question de qualité, c'est une question de temps.
C'est une question de temporalité.
Oui.
On ne l'investit de rien du tout. Simplement... c'est comme envoyer une ancre vers le futur. Et après, on remonte, en fait. Et d'ailleurs, cette radicalisation du « à jamais », on la trouve ensuite, par exemple, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, verset 8. Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » À ce moment du dernier repas, le lavement des pieds. « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et donc, le « jamais », en fait, c'est « eiston aiona », donc dans l'éternité, en quelque sorte. Hein. C'est une bonne façon de traduire « à jamais ». C'est un usage français classique, en fait. Hein. Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds dans l'éternité. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où cela pourra arriver. Donc, le plus simple, c'est effectivement de traduire par « jamais ». C'est assez juste, en fait. Il y a quelque chose qui vous...
Pas... Qu'est-ce que ça veut dire, si tu n'auras pas de part avec moi, ça veut...
Eh bien, en fait... ça serait une façon de dire que il y aura une distance entre toi et moi.
Ah oui, ça, oui, qu'il ne sera jamais uni.
Ouais, tu.
Tu ne feras pas jamais partie des gens.
Bah, vous savez, à un moment donné, il y a un disciple qui met la main dans le plat en même temps que Jésus. C'est une façon de dire qu'il a part avec Jésus, même s'il s'avère que c'est le disciple qui livre. Eh bien, c'est de dire qu'on n'est plus en communion avec lui, en fait. Et puis en 1 Corinthiens 8, verset 13, c'est ce passage où on parle des gens qui tiennent pas compte des plus faibles, qui du coup agissent sans se préoccuper de ceux qui peuvent être choqués, scandalisés par les pratiques des puissants. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, je ne mangerai jamais de viande, c'est je ne mangerai pas de viande, eiston aiona, donc dans l'éternité. Voilà. La période qui s'ouvre devant moi sera une période d'abstinence de viande. Là, en fait, il s'agit de la question des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce qu'on peut manger avec les païens? Est-ce qu'on est tenu d'observer scrupuleusement les règles alimentaires? Et là, Paul se positionne en se disant « c'est pas la loi qui me dicte dans la lettre ce que je dois faire, c'est le souci de mon prochain qui oriente mon éthique. » C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas le scandaliser. Si jamais mon comportement risque de l'offusquer, je lui fais du tort, donc je m'abstiens. Pour toujours. Hein, c'est une radicalisation de l'éthique. C'est à la fois une éthique relative, c'est-à-dire que c'est pas un principe qui s'impose à soi, c'est la situation du prochain. Et d'un autre côté, il y a quelque chose d'absolu, c'est dans l'éternité, à jamais. Donc ça, c'était pour une approche assez areligieuse du concept. Maintenant, on va voir comment ça se traduit théologiquement. Comment est-ce que ce mot « aion », qui en fait désigne souvent le siècle, parle de Dieu, et comment, dans un deuxième temps, ça parle du monde. Et voir si ça arrive à faire la conjonction. Est-ce que par rapport à ce que je viens de vous dire, il y a des questions, des observations, des objections, des reproches? Il faut s'accrocher? Très bien. Accrochez-vous, Eiston Aiona.
Il faut toujours s'accrocher.
Oui, il faut toujours s'accrocher. Bon, alors, donc maintenant, le temps de Dieu. L'Aion, ça désigne le temps de Dieu. Donc ça, c'est, je dirais, le premier gros morceau que nous allons voir. Ça désigne le temps de Dieu de deux manières. La première manière, c'est telle que je vous en parlais, en désignant une durée éloignée dans le passé. Et c'est Amos, prophète du Nord, chapitre 9, verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois. Comme elle était autrefois, c'est-à-dire selon les jours tout aionos, donc de l'éternité. Vous avez, c'est les derniers mots en grec en bas. Donc, vous voyez, comme elle était autrefois, ce n'est pas une traduction magnifique. C'est comme les jours de... Peut-être comme les jours d'autrefois, mais en tous les cas, comme les jours de l'Aïon. Pour l'instant, essayons de le garder sans trop le traduire. Donc, ça nous renvoie à un passé lointain, que certainement, ces gens-là n'ont pas connu, parce qu'à l'époque du prophète Amos, on avait déjà passé quelques générations. Et puis, il s'agit du rétablissement, donc c'est le moment où il y a la destruction du royaume. Et David, c'est de l'histoire vraiment ancienne. Donc, on a ici le temps de David qui est un passé lointain et qui est un temps qui, en fait, n'est pas visible aux yeux des personnes concernées parce qu'elles n'ont pas une mémoire de cela, elles n'y étaient pas. Il y a quelque chose de caché. On va le voir dans le passage suivant. Le passage suivant, c'est Ésaïe. Donc, je vous ai mis là plus qu'un verset parce que ça, il y a une petite dynamique intéressante dans ces quelques versets d'Ésaïe. Donc, vous avez le texte en grec, en face le texte en français, et puis le texte hébreu continue sur la page de droite. Donc, c'est Ésaïe au chapitre 45, les versets 14 à 19. Donc, colonne de droite, ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi. Donc, vous voyez, on est dans un registre, là aussi, de fin d'occupation, de rétablissement du peuple. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant: c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Alors, je vous rends attentif à quelque chose d'intéressant, c'est que c'est la première fois dans la Bible qu'on parle de monothéisme. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a une mention où il n'y a pas d'autre Dieu que lui.
Parce que dans les dix commandements, c'est un monothéisme relatif.
Oui, c'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle un énothéisme. Un énothéisme, c'est n'avoir qu'un seul Dieu, tout en sachant qu'il y en a d'autres.
D'accord.
Mais on est en lien avec un seul Dieu, comparé aux polythéistes qui sont en lien avec plusieurs dieux, mais on conçoit que d'autres peuples, d'autres nations, vénèrent d'autres divinités que la nôtre. Nous, on est en relation qu'avec une, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe qu'une seule. Oui, et Abraham a fortiori. Abraham...
Oui,
non, mais il ne faut pas disqualifier Abraham. Je veux dire, l'époque d'Abraham ou ce que décrit Abraham, même Moïse... D'ailleurs, on le sent bien. Quand Moïse monte sur le Sinaï pour recevoir les tables de la loi auxquelles vous faites référence, il est absent pendant un long moment, le peuple s'inquiète... Et il va voir Aaron, grand prêtre, en lui disant « Il nous faut du divin. Là, c'est plus possible. L'absence est trop cruelle. Le vide est insupportable. On veut du divin. » Et du coup, c'est le moment où on récupère toutes les boucles d'oreilles de vous, mesdames, les chaînes, etc. On fond et on fait un veau d'or. Et que dit Aaron? Il dit « Voici, Israël, tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Vous voyez? Il y a plusieurs dieux. Et ce n'est pas parce que Elohim, qui désigne Dieu, serait un pluriel, c'est que le verbe aussi est au pluriel. Hein? Qui t'ont fait sortir, c'est au pluriel. Alors que quand on dit Elohim crée les cieux et la terre, le verbe est au singulier. Donc même si la forme de Dieu en hébreu peut être plurielle, elle gouverne toujours un verbe au singulier. Mais dans cet épisode-là, on voit bien que le peuple est polythéiste. Voici tes dieux qui t'ont fait sortir.
Et le nom.
Pour dire cette... C'est énothéisme. Énothéisme, c'est un dieu en fait. Et monothéisme, ça sera le moment où on considère qu'il n'y en a qu'un. Mais pour tout le monde du coup. Même ceux qui sont... Et du coup on va développer... la lutte contre les idoles, parce que les autres ne sont pas des dieux, ce sont des idoles. Et ça va être toute la logique d'Ésaïe, c'est de dire, mais arrêtez là, c'est du bois qui ne répond pas à vos prières, c'est, on le jette au feu.
Non, j'imagine que c'est Moïse qui est monothéiste et Ésaïe qui est énothéiste.
Non,
c'est le contraire.
Le deuxième Ésaïe, au chapitre 45, pose les bases du monothéisme. Donc il y a un seul Dieu pour tout le monde. Pour le Moïse, on peut considérer que c'est encore l'époque où il y a toute une palette de divinités. Nous, on n'en a qu'une. On en prend une parmi toutes. Ça, c'est énothéisme. C'est un parmi plusieurs. Alors que monothéisme, c'est un tout court. Et polythéiste, a fortiori, c'est celui qui sait qu'il y en a plusieurs et qui en prend plusieurs. Un pour la pluie, un pour le soleil, un pour le travail. Voilà. Alors, on casse les œuvres d'art du voisin avec Ésaïe.
Voilà.
Qui dira, oui, alors c'est quand même sympathique, vous prenez un bout de bois, vous en faites une divinité, et puis avec ce qui vous reste, ben, vous le mettez au feu pour faire cuire votre ragoût. Bon, soyez un peu raisonnable, vous vous rendez compte qu'il y a un problème là quand même. Le divin ne saurait être contenu dans du bois.
C'était qu'une représentation en fait. C'était pas le morceau de bois, il n'était pas le dieu lui-même. C'était la représentation.
Ça, c'est votre côté sympathique pour essayer de sauver l'époque.
Non, je suis pas sympathique. Hein.
Si vous êtes sympathique.
Et je suis, enfin, ça dépend. Ouais. Mais je veux dire par là, je pense qu'il ne pensait pas que c'était le morceau de bois. Il représentait quelque chose d'autre, je pense.
Oui, oui, probablement. Ben,
c'est comme les catholiques.
C'est comme les icônes.
Qui mettent des statues, c'est la
Bien
même
sûr.
Chose. Ils ne pensent pas que c'est la statue qui va faire quelque chose. Ils pensent qu'elle
On
représente.
Peut le souhaiter,
quelque...
en tout cas.
Enfin,
oui,
j'espère.
Oui, oui.
Je pense que ce n'est pas comme les icônes, parce qu'au Louvre, ils nous ont dit que la présence divine descendait le matin dans la sculpture égyptienne lorsqu'elle était réveillée. La présence divine partait le soir. On enlevait la présence divine quand on détruisait la statue. Dans l'icône, il n'y a pas de présence divine. L'icône, c'est un chemin.
Oui,
c'est ce que. C'est une fenêtre.
C'est ça, c'est ce que je disais. Ce n'est pas une divinité, ça renvoie à autre
Et
chose.
La statue égyptienne,
Oui. Bon, là, on va s'intéresser à la question de l'Aïon, de l'éternité, et pour les idoles, ça sera une prochaine fois. Mais en tous les cas, on va en parler après, parce qu'après, justement, il va parler des fabricants d'idoles. Donc, toujours est-il qu'ici, il n'y a point d'autre dieu que lui. Et en fait, c'est cela qui va conduire à penser l'éternité autrement que simplement les temps anciens ou les temps à venir. Il va y avoir un rapport, à mon avis, entre l'éternité et le monothéisme. Et donc ça continue. « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Alors, cette idée du Dieu qui se cache, le El Mistatar, c'est extrêmement important dans la pensée juive, par exemple. Mais pareil, je ne vous fais pas une grosse fenêtre là-dessus. « Ils sont tous honteux et confus. » Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. Fabricant, ça peut être suffisant, mais bon, fabricateur, c'est second. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Et alors, vous voyez, là, c'est un petit peu étonnant, parce qu'on peut se dire, du coup, ça va être le même mot. Mais non, si vous regardez en face dans le grec, donc, c'est d'abord par le Seigneur. Le Seigneur, c'est souvent la façon de traduire le tétragramme. Et si vous prenez dans l'hébreu, pour ceux qui sont un peu familiers avec l'hébreu, alors c'est pas magnifiquement imprimé ce verset-là, mais c'est Yahou. Et puis, ensuite, la suite du verset, donc c'est jusque dans l'éternité, on voit que c'est Aionos en grec. Et pour l'hébreu, c'est Olam et Ad. Hein, c'est-à-dire que c'est Olam, c'est ce mot-là. Donc, vous voyez, éternel, en français, ça désigne deux termes différents. Un coup, c'est le nom de Dieu, et un coup, c'est, disons, l'éternité au sens commun du terme. Donc, c'est à la fois un piège, et puis la traduction n'est pas complètement erronée, parce que c'est effectivement un texte qui va coordonner les deux. C'est-à-dire que c'est le moment où on voit que ce que l'on nomme le divin, c'est ce qui nous permet de nous coordonner à quelque chose qui relève de l'éternel.
L'éternel, dans le texte grec, c'est
Alors, l'éternel au sens du nom de Dieu, c'est Kurios, le Seigneur. Et donc, c'est Hypokuriou. Et puis, éternité au sens du temps, c'est donc là encore Aion. Et puis donc, au verset 18, « Car ainsi parle l'Éternel », donc c'est un E majuscule hein, à chaque fois dans le français, c'est à nouveau le nom de Dieu. Donc, le Créateur des cieux, le seul Dieu. Donc, on est bien à nouveau dans une histoire de monothéisme. On a ensuite qui a formé la terre, la fête, la fermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on a cette coordination entre un Dieu unique, un Dieu que l'on suppose caché, c'est-à-dire qu'on n'a pas sous les yeux, et néanmoins un Dieu qui se révèle et qui se révèle comme celui qui crée. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait une coordination entre tous les temps possibles. Il y a à la fois le temps de la création qui est rappelé, il y a le temps de la durée, je suis éternel, et parce qu'il est unique, c'est donc lui qui peut faire le lien entre tous ces temps-là. Ça peut sembler sans grande conséquence. Pour Jacques Derrida, c'était cette caractéristique qui lui faisait dire que dans une situation qui pourrait nous sembler une situation marquée par l'impardonnable, exemple type les petits-enfants des personnes tuées durant la Shoah, qui peut pardonner ? Eh bien, il disait, il n'y a que la victime qui peut pardonner, ou le divin. Parce que le divin est justement celui qui arrive à coordonner ces différents temps-là. Et arrivant à coordonner ces différents temps-là, il est présent au moment des faits. Il est concerné par les faits, ce qui n'est pas le cas des petits-enfants qui, eux, ne l'ont pas connu. Enfin, n'ont pas connu les bourreaux, etc. Il disait, c'est pour cela qu'il disait que voilà, on ne peut pas pardonner à la place de quelqu'un d'autre, seul Dieu peut le faire. Après, il faut voir quelles sont ces modalités du divin.
On peut pardonner le mal qu'on en a ressenti nous-mêmes.
On peut pardonner, c'est ça.
Voilà. Le mal qu'on a fait à la personne.
Et on ne peut pas pardonner le mal qu'un autre a subi.
Voilà, ouais. On ne peut pas pardonner.
C'est pour ça que même le pardon ou la demande de pardon au nom d'un peuple, etc., c'est un peu compliqué. Alors en grec, il n'y a de toute façon jamais l'éternel au sens strict du terme. Oui, c'est. Oui, égoïmi, en fait, c'est je suis. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que la traduction française, elle suit l'hébreu et pas le grec.
Ah, d'accord.
Parce que dans le grec, qui lui traduit aussi l'hébreu, sur cette question du « je suis », il faut se reporter à Exode 3, quand Dieu se révèle à Moïse avec l'épisode du buisson ardent, avec cette fameuse phrase très étonnante « ayez Asher, ayez », qui est traduite souvent par « je suis qui je suis ». Quand on le traduit de l'hébreu, ça peut être aussi « je suis qui je serai qui je suis », parce qu'il n'y a pas de distinction très claire entre le présent et le futur dans l'hébreu. Et le grec l'a traduit par « je suis celui qui est, je suis l'étang, je suis le aune ».
C'est le égoïmi.
Et alors, oui, et du coup ça fait référence à cette traduction grecque qui se base sur la notion grecque de l'être et pas sur l'idée hébraïque du devenir. Là où l'hébreu nous emmène plutôt sur l'idée de l'existence, du devenir, du advenir. Le grec nous envoie plutôt sur la question de l'être et de la stabilité de l'être. À la limite, c'est « je suis le fondement de l'être ». Ce qui n'est pas contradictoire, mais ce qui est une approche légèrement différente.
Ça, c'est les Septante.
Oui.
Et la traduction française,
ben d'ailleurs, ça, c'est une traduction des Septante, en fait, hein, le texte grec que vous avez.
Oui, c'est la partie des Septante.
Oui, oui.
Ben,
c'est Louis II. En fait, vous savez, à chaque fois...
Louis II, 1910 ou la NBS?
Non, ce n'est pas la NBS du tout. Sinon, vous n'aurez pas l'Éternel, vous auriez le Seigneur. Et quand il y a LSG, en fait, c'est parce que c'est Louis II.
Ah, d'accord. Voilà. LSG, ça veut dire second du 1910.
Louis II, ouais.
Excusez-moi, c'est une parenthèse, mais en quoi la NBS est à Louis II? Moi, je ne vois pas, parce qu'elle est tellement différente.
Non, elle n'est pas si différente que ça, mais il y a des petits endroits où ça a été retraduit. Par exemple, on ne traduit plus l'Éternel, on dit le Seigneur.
Oui, ouais. Parce que les gens sont moins bons en français.
C'est parce qu'on est parti d'une base second et qu'on l'a révisée. C'est comme la version de 78, c'est une Louis II 1910 qui a été révisée, etc.
Oui,
oui. Ouais. Enfin, les imparfaits du subjonctif ont quand même copieusement disparu.
Oui, parce que les gens sont moins bons.
Alors,
en français.
Ensuite, en continuant. Il y a quelques passages qui vont aller dans ce sens-là. Confier, donc Ésaïe, chapitre 26, verset 4. Peut-être que vous avez encore des questions sur ce passage, gros passage d'Ésaïe, monothéisme, tout ça. Je ne voulais pas vous laisser dans la perplexité ou le désœuvrement. Bien. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alors là, c'est assez magnifique parce que c'est un verset épouvantable, vous comprenez bien. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles.
Il est un peu dur.
Ben, c'est surtout que c'est magnifique parce que ça met des mots ensemble qui recouvrent plusieurs, choses. Déjà, confiez-vous. C'est un peu étonnant quand on voit que la racine grecque, c'est elpis. Elpis, c'est l'espérance. Comme ça. Espérance. Donc c'est plutôt espérer en Dieu que confiez-vous en Dieu, mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc, dans le Seigneur, eos tu aionos, donc c'est jusqu'à l'éternité, c'est jusqu'à perpétuité. Perpétuité, c'est sympathique, mais ça donne un peu l'idée de condamnation quand même. Alors que aionos n'a pas cette idée de enfin, c'est neutre en certaine mesure. Nous, perpétuité, c'est trop connoté par le domaine de la justice. Mais en tous les cas, c'est l'idée de quelque chose qui est hors temps. Vous voyez, ça sort de la comptabilité. Et le Dieu, le mégas, donc disons le grand, o aionios, qui est le... qui est en quelque sorte une personnification de l'éternité.
Le rocher, il n'est pas dans le grec.
Non, il n'est pas dans le grec, il est dans l'hébreu. Mais je vous ai mis la version grecque parce que ça montre comment il y a une sorte de distorsion. C'est-à-dire que la version française est bonne par rapport à l'hébreu, et je vous ai mis le grec pour que vous mesuriez la distorsion qu'il y a eu en grec. Et cette distorsion, elle est importante parce que c'est à partir du grec que va s'élaborer la Vulgate.
Et voilà, et les réformateurs reviennent à l'hébreu.
Et c'est pour cela, certainement, qu'il va aussi y avoir des conflits théologiques entre catholiques et protestants. C'est qu'en fait, on n'a pas la même Bible. Bon, je le dis comme ça, sauvagement, mais... vous voyez, ce genre de déformation, « je suis Othéos, Omegas, O Aionios », ça donne quand même une image du divin qui est très proche de Zeus, quoi. Bon, et dans la version hébraïque, car l'Éternel est le rocher des siècles, vous voyez, il y a une métaphore qui nous permet de rester quand même beaucoup plus calme par rapport aux figures du divin.
Parce que là, on a trois éternels en français, et on a Théos,
Mégas
en grec.
Ouais, quand il y a l'Éternel avec ce E majuscule, ça veut dire c'est le tétragramme. Alors, disons, Ça serait Adonai si on voulait prendre une façon juive de le nommer.
Et donc en hébreu, c'est trois éternels identiques.
Voilà. Oui, c'est trois fois le tétragramme.
Ils ont mis trois éternels différents.
Et dans le grec, ils ont supprimé.
Ouais.
Ben, ils ont une fois curier, donc ça serait la traduction logique de l'éternel. Ensuite, ils ont remplacé une fois par théos, et puis une fois par mégas. C'est comme s'il y avait une surenchère. Oui. Vous voyez, plutôt que de répéter, du coup, hop, ils en rajoutent une couche.
Et ils ont enlevé l'aspect poétique du rocher.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, ils personnifient. Parce que le O Aionios, c'est comme si Dieu était cet éon. Comme si Dieu était cette éternité. Comme si l'éternité était personnifiée dans une divinité. Et ça, l'hébreu va toujours s'y refuser. Ça, c'est classique dans la pensée grecque, mais ce n'est pas le cas de la pensée hébraïque. Et ça ne sera pas le cas non plus dans la pensée du Nouveau Testament.
J'ai une autre question, je reviens en arrière. Je suis très frappée par cette histoire des monothéismes que je découvre. Pourquoi ce mouvement d'Isaïe qui apparaît la notion de monothéisme ?
Parce que... donc c'est... Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le Deutéro-Ésaïe, c'est la deuxième. Ésaïe, on peut dire que c'est des coupes. Il y a trois Ésaïes différents. Hein. Et donc là, c'est le deuxième Ésaïe, c'est Ésaïe qui parle du retour d'exil à Babylone. C'est-à-dire que c'est le judaïsme, enfin le judaïsme, d'ailleurs le judaïsme n'existe pas encore à cette époque-là, c'est la foi du peuple hébreu qui a été confrontée à la culture babylonienne. Et puis, dans ce dialogue, il va en ressortir aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on en est arrivé à se faire déloger de chez nous, à ce que le temple soit détruit, que notre roi, on lui crève les yeux, qu'on soit, etc. Donc il y a à la fois un dialogue avec la culture et puis un dialogue sur y a-t-il eu une justice de Dieu ? Et, dans cette réflexion, c'est est-ce que par hasard, Babylone n'aurait pas été l'instrument de Dieu. Parce qu'ils se disent, mais au fond, c'est vrai, des prophètes nous avaient avertis, notamment le premier Ésaïe. Mais arrêtez d'avoir une politique étrangère semblable à celle que vous avez, arrêtez d'avoir une justice sociale semblable à celle que vous avez. Et si c'est Babylone qui l'emporte, ils peuvent se dire, mais ça veut dire que Dieu était du côté de Babylone. Mais néanmoins, c'est resté notre Dieu. Si tu es du côté de Babylone et que c'était quand même notre Dieu, ben c'est qu'en fait, il y a un seul Dieu. Vous voyez, c'est qu'en fait, il y a une universalisation de la divinité parce qu'on se rend compte qu'on est imbriqué dans une histoire qui nous dépasse largement et qu'il n'y a qu'une... Alors, désolé pour cet anthropomorphisme auquel je n'adhère pas de façon littérale. Il n'y a qu'une seule personne qui est aux manettes.
Et donc, c'est God in it. Dieu avec eux.
Avec nous tous. Avec uns, mais eux étant avec nous. Et c'est, à mon avis, cette réflexion sur comment on en est arrivé là qui les fait atteindre cette idée d'un Dieu universel, que l'on va retrouver, du coup, dans Genèse 1. Dieu est créateur de l'univers, et pas simplement du peuple d'Israël, ce qui pourrait être envisagé avec Genèse 2, par exemple, qui était un texte éventuellement plus propice à avoir une lecture nationale du Dieu. Mais Genèse 1, qui est rédigé après l'exil à Babylone, est lui aussi marqué par cette veine monothéiste.
Alors, l'idée de Dieu, elle n'est pas née forcément en Israël, puisque vous dites à Babylone, c'était en métropole.
Non, l'idée de Dieu n'est pas née en Israël. D'ailleurs, on le voit bien, puisque Abraham ne naît pas en Israël et que la pensée de Dieu existe déjà. Sachant que la Bible n'est pas non plus un récit de l'histoire de la pensée religieuse. Mais en tous les cas, le texte biblique assume en son sein le fait qu'il y avait du divin avant qu'Israël fût. D'ailleurs, c'est ce qui va être dit dans quelques textes. « Avant que le monde fût, j'étais », dit Dieu.
Mais ils ne sont pas le peuple élu, alors, forcément.
Mais ils peuvent être peuple élu sans être peuple sélectionné. Je vous laisse sur ce koan. Et je continue.
Si nous nous considérons comme chrétiens tout en respectant le temps de Dieu à nous, qu'elle est tout ça, on n'est pas monothéiste, on est monothéiste.
C'est exactement ça. Alors, Ésaïe 40, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Donc là, le Dieu d'éternité, Theos Aionios. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'idée d'éternité est ici effectivement reliée avec l'idée qu'il n'y a pas d'outrage du temps. Vous voyez, il ne se fatigue pas, il ne s'érode pas, il ne s'abîme pas dans le travail. Une sorte de facilité. Ce qui nous dit quelque chose du hors-temps. C'est-à-dire que le temps n'a pas de prise sur le divin. Alors, ça fonctionne bien si on a l'image d'un Dieu comme d'un être surnaturel. Au fond, c'est un Dieu qui est au-dessus du temps, hors du temps. Si on n'a pas l'idée d'un Dieu surnaturel, ça marche très bien aussi. Parce que ça signifie que ce que l'on nomme divin n'est pas soumis à ce qui est temporaire. C'est-à-dire que Dieu n'est pas contingent. Et c'est en ce sens qu'il est absolu. On ne parle pas d'un Dieu absolu dans les textes bibliques, mais on parle d'un Dieu qui n'est pas contingent. C'est-à-dire qui ne dépend pas, certes, de nos mauvaises humeurs, mais qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas des conflits, qui ne dépend pas des intérêts relatifs. C'est ce qu'essaie de nous faire découvrir Ésaïe ici. Au fond, ce que l'on appelle Dieu, donc notre idée de l'absolu, n'est justement pas sous la domination de choses temporaires, qui ont un début et qui ont une fin. Exemple type. Si je le ramène à mon niveau, en tant que pasteur de l'Église protestante unie, la question pour moi n'est pas le salut de l'Église protestante unie en tant qu'institution, parce que ça, il y a eu un début, il y aura donc une fin. Hein, c'est ce que je disais quand j'étais pasteur de l'Église réformée de France. Le jour où l'Église réformée de France mourra, je ne verserai pas une larme, parce que je sais qu'elle mourra. D'ailleurs, je ne pensais pas à l'époque que j'en verrais la mort et que je verrais la naissance de l'Église protestante unie. Donc voilà, l'Église réformée morte, vive l'Église protestante unie, quoi. Et l'absolu auquel je me réfère, lui, reste, demeure, parce qu'il y a un au-delà de l'Église protestante unie, encore aujourd'hui. Bon, ce qui est vrai à mon niveau est vrai à d'autres niveaux. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui considère que son travail relève d'une vocation professionnelle, ce n'est pas parce qu'il va changer de poste, qu'il va changer d'institution, voire qu'il sera au chômage, que sa vocation sera diminuée, voire annulée. Parce qu'il reste référé à un absolu qui dépasse le lieu où il exerce sa profession. Une vocation n'est pas diminuée, altérée, au prétexte qu'à un moment donné, on subirait le chômage, par exemple. Ça veut dire que ce n'est pas contingent.
C'est une éthique, en fait.
Et alors, du coup, ça permet une éthique qui n'est pas dépendante des circonstances. L'éthique protestante tient compte des circonstances, mais elle n'est pas soumise aux circonstances. C'est parce que, justement, il y a de l'espérance qui nous permet de dépasser ça. C'est pour ça que l'espérance est intéressante.
Ah oui. Il y a une belle prédication sur l'espérance.
Ouais.
Notre confrère.
Ouais. Jérémie 10. Alors, je vous l'ai mis pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un verset qui n'existe pas dans le grec. Du coup, je vous ai mis dans le grec, il n'y en avait pas. C'est amusant, ça n'a pas été traduit en grec. Du coup, je vous ai mis l'hébreu. L'éternel Dieu est vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Je vous ai mis ce verset parce que on y voit l'idée d'un Dieu qui règne. Et c'est quelque chose qui apparaît ici ou là. Est-ce que le divin, ce n'est pas ce qui régnerait sur l'éternité, sur les éons, sur les siècles en fait, hein, cette idée du Dieu qui règne. Et le psaume 47, par exemple, est un récit d'intronisation du roi ou de Dieu, et roi et Dieu, ça se fait dans les mêmes termes en fait. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. Voilà, c'était Meler Olam. qui m'intéressait ici. Et est-ce que c'est un Dieu qui règne sans fin, ou est-ce que c'est celui qui règne sur l'éternité ? Souvenons-nous que il y a de l'ambiguïté de la langue hébraïque, il n'est pas toujours évident de savoir ce qui est verbe, ce qui est substantif. Peut-être que c'est un verbe, à voir. Les linguistes me diront. Qu'est-ce qui nous fait dire que ça peut être le roi des éons ? Dans ces derniers temps, c'est Hébreu chapitre 1, verset 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé le Fils. Alors, Fils, F majuscule, ça n'existe pas dans le grec. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et en fait, le monde, c'est Aionas. Il a fait, en fait, le monde. Deux intérêts ici. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une domination sur les éons qui va se passer de génération en génération. Il le lègue à son fils, qui en hérite. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on voit qu'ici, le monde traduit Aionas, et ce n'est pas complètement faux, parce que dans la langue du Nouveau Testament, dans les auteurs du Nouveau Testament, il va souvent y avoir une utilisation tranquille entre cosmos et aion, c'est-à-dire entre monde et éternité. Parce que justement, l'éternité, en fait, ne va pas être tout à fait l'éternité. Mais souvent, on utilise indifféremment les deux termes. Et puis, toujours livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Vous voyez, le monde a été formé par la parole de Dieu. En fait, c'est là encore un léon par la parole de Dieu. Était formé et par et ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est encore l'idée qu'il y a quelque chose de caché. En fait, l'Épître aux Hébreux reprend ce qu'on avait vu sur Olam, c'est le temps caché, donc c'est le temps qui ne se voit pas à l'œil nu et qui est le temps de Dieu en fait. Et je leur dirai tout à la fin, la foi, c'est justement ce qui permet d'interpréter les signes des temps, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est une sensibilité à quelque chose qui ne s'écoule pas de façon visible. Bon, je passe un peu rapidement là-dessus. Bon, je saute quelques références que je vous ai mises, mais comme vous les avez, vous n'en serez pas privé. On passe directement, donc on tourne la page. Il y a le psaume 101 qui là aussi est en quelques versets. Alors les psaumes, c'est le psaume 102 d'ailleurs, c'est pas le psaume 101. Les psaumes, c'est un peu compliqué avec les grecs de la Septante parce qu'il y a des décalages dans les numéros des chapitres et des versets. Là, vous voyez que c'est 101 et pas 102 pour le grec. Ça explique qu'il y a des décalages entre les versions catholiques et les versions protestantes. Parce que comme on l'a dit, version catholique, ça se base sur la Vulgate qui se base sur la Septante. Du coup, des fois, il y a des petits décalages. Puis vous voyez que le verset 25 correspond au verset 24. Enfin bon, c'est pas très grave. Simplement, quand vous faites des références, il faut les faire par rapport à l'original. Et l'original, c'est l'hébreu. Donc logiquement, vous mettez entre parenthèses la version grecque si vous travaillez sur le grec. Je dis « Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours ». Toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Alors, c'est important parce que ça parle de la stabilité du divin. Et cette stabilité, en fait, elle est enracinée par rapport à la question de la temporalité. En fait, on tire un peu le trait de la temporalité pour asseoir la stabilité du divin. Et c'est l'impermanence, en fait, qui est invoquée ici, le fait que ça ne change pas. C'est-à-dire que tout change, sauf le divin. Il y a une formule qui dit cela pour les temps estivales. L'appétit vient en mangeant, la soif nous quitte en buvant, seul Dieu est éternel. Ici, on a une concentration de termes qui parlent justement du temps, de ce qui demeure, de la stabilité et de ce qui est installé en fait, hein, de ce qui est quasiment assis. Donc voilà, ça peut être un objet de réflexion. Je continue rapidement. Oui, on peut passer par exemple au psaume 90 et à 2 Pierre, qui sont une reprise de ce qu'on avait vu avec Josué, c'est-à-dire un changement de temporalité, une relativisation du temps. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. On a la même chose chez Pierre. « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc, ici, ce n'est pas pour vous dire qu'on a une autre façon de traduire « aion », parce que « aion », on ne l'a pas. Mais on a cette idée que il y a une inutilité du temps, en fait. C'est-à-dire que la temporalité à laquelle on a tendance à se soumettre ne tient pas la route face à Dieu. Que Dieu, c'est le hors-temps. Vous voyez, quand on est souvent pressé par notre agenda, par les délais, etc., c'est le moment où on peut se dire il y a quand même quelque chose de perverse ou de malsain. En tous les cas, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. C'est que dans la mesure où on est sous la pression de ces ultimatums, etc., c'est qu'on n'est quand même pas encore dans le temps du royaume. Alors vous me direz, il y a certaines civilisations où l'absence de temporalité n'est pas sans poser problème. On peut penser à la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais peut-être qu'il y a une intuition d'une temporalité qui favorise la vie qui pourrait nous être utile. Voilà. Peut-être pas la disqualifier tout de suite, nous qui sommes très à cheval sur les horaires. On commence l'étude biblique à la nuit, on va la finir à la nuit. On va essayer de ne pas déborder. Bon. Ensuite, on aborde une nouvelle séquence, c'est plus le temps de Dieu, c'est le temps du monde. Et autant avec le divin, on pouvait avoir l'idée d'une éternité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début, pas de fin, avec le temps du monde, on va se rendre compte que Aion, en fait, ça désigne une temporalité qui est marquée. Il y a un début et surtout, on va voir qu'il y a une fin. Là, c'est l'épisode de la zizanie. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, qui a semé le zizaion. Donc, des fois, on dit le livret. La moisson, c'est la fin du monde. Là, donc, on retrouve notre Aionos. Suntelia, c'est la fin, donc Aionos du monde, d'un monde, d'une époque. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Et c'est donc l'idée que c'est pas forcément l'éternité au sens de intemporalité ou sans fin, c'est plutôt une époque, une grande époque, une ère, pourrions-nous dire. Mais une époque, ça a un sens aussi sur le plan sociologique. Marc, chapitre 4, verset 19, les soucis du siècle, la séduction, les richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc les soucis du siècle, eh bien c'est ça, c'est encore l'aïone. Et c'est le moment où on comprend que ça va désigner notre monde marqué par le péché. On l'a de la même façon chez Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui a entendu la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est cette idée selon laquelle on est dans un monde qui nous brime, qui nous entrave, qui nous empêche. Et Aion, quand ce n'est pas référé à Dieu, ça désigne notre monde, ce siècle. Et je vous l'ai dit, on peut utiliser indifféremment cosmos ou aion dans ce cas-là.
Ça va pour la politique, ça.
C'est ?
Ça va pour la politique.
Ça va pour tout. Ça peut être l'économie au sens de la loi de la maison. Ça peut être aussi les phénomènes de mode. Ça peut être aussi les humeurs du moment. Voilà. Tout le monde peut réfléchir à ce que dit Paul dans son épître aux Romains, chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc c'est cet éon, hein, to aioni tauto, ce siècle présent. Donc c'est l'époque dans laquelle nous vivons. C'est en fait la mode. Aujourd'hui, on dirait ne vous conformez pas à la mode du temps présent. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dimanche dernier, quand je lisais un autre passage de Paul, il disait, grosso modo, il faut se conformer au Christ. Parce qu'en fait, ça va être le modèle de l'être humain qui arrive à vivre sans se conformer au phénomène de mode. C'est-à-dire qu'il ne perd pas de vue l'absolu, qui est dans le monde sans être du monde, dira-t-il dans Jean chapitre 17. Et au fond, il est là le travail du chrétien. C'est être dans le monde, parce que c'est ce monde-là que Dieu a aimé, et pas un autre, sans se conformer au monde, sans être dans la logique du monde. C'est la raison pour laquelle, dans la confession de foi dite de l'oratoire, il y a cette dernière phrase qui peut être un peu bizarre, la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Il ne s'agit pas de détruire le monde dans un catéchisme nucléaire. Il s'agit de détruire cette logique du monde, c'est-à-dire cet éon. Il y a une logique du monde qui entrave notre capacité d'être. Et c'est cela qui est fâcheux. Et on va voir qu'il y a une sorte de dualisme, en fait. Je ne vous en ai pas trop parlé du dualisme, mais c'est le dualisme qui apparaît justement après la période de Babylone, et notamment la période perse. Hein, la période perse, les Perses sont dualistes. Le zoroastrisme est manichéen et le manichéisme, c'est le dualisme. C'est certes blanc et noir, par exemple, mais c'est pas que ça. Le dualisme, c'est les forces du bien contre les forces du mal, les fils de lumière contre les fils des ténèbres, et c'est le monde présent contre le monde à venir. Et le monde à venir va être extrêmement présent dans la pensée du Nouveau Testament. Et c'est ce que Paul déjà est en train de dire. Il le dit aussi, 1 Corinthiens 1, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?» Et vous voyez, on a ici, vraiment, on voit que c'est synonyme « disputeur de ce siècle » et « sagesse du monde ». Il aurait très bien pu utiliser le même mot dans les deux, sauf qu'il ne se répète pas. « Siècle » et « monde », ici, c'est pareil. Donc ce siècle, c'est pas le siècle en général, c'est ce siècle pour désigner ce qui caractérise notre façon de vivre. Pareil, 1 Corinthiens 2, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. » Vous voyez, là, il y a une impermanence. Le bouddhisme parlerait de cela aussi. L'impermanence, c'est quelque chose qui doit être combattu. En tout cas, ce n'est pas à l'impermanence que l'on doit s'attacher. Et dans une certaine mesure, l'Évangile dit cela. Il ne faut pas s'attacher à l'impermanence. Il ne faut pas s'attacher à ce qui est futile. Ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter, mais il ne faut pas y vouer un culte.
Il me semble que pour le bouddhisme, ça va de là à l'impermanence aussi. Maya, une illusion.
Oui, il y a trois caractéristiques. C'est une illusion quand on lui donne un statut de divinité. Ça devient une idole. Ouais. Mais le christianisme lutte contre des illusions. Par exemple, l'illusion que la sagesse du monde serait une sagesse idéale. Pour reprendre Paul. D'ailleurs, on le voit bien, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le Dieu de ce siècle. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que Paul soit polythéiste ou énothéiste, mais c'est une façon pour lui de désigner ces personnes qui ont un autre Dieu, qui en fait s'avère être une idole, qui en fait s'avère être une illusion. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Mais Paul dit qu'à un moment donné, il parlera même des gens superstitieux d'ailleurs. Vous êtes superstitieux, vous les Athéniens. Il y a du religieux, en fait, dans la plupart des sociétés. Et ce religieux, parfois, relève de l'illusion. C'est-à-dire qu'il fait une lecture théologique en disant « Ce que vous appelez Dieu, bah, moi j'appelle ça idole, parce que ce n'est pas véritablement un absolu. Vous verrez que ça dégringolera. C'est comme ces personnes qui sont obnubilées par l'argent, qui font carrière, et puis à 40 ans, l'idole Mammon, elle se casse la figure. Et leur vie avec, parce qu'ils avaient tout misé sur le statut social ou sur la carrière. Ils se rendent compte que ça ne remplit pas une vie. Bon, certains ressuscitent, passent à autre chose, tout va bien. Puis pour d'autres, c'est dur. Voilà. L'idée de l'évangile, c'est de voir les choses venir avant qu'elles nous tombent dessus. D'où Jean chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est ça, en fait. C'est pas qu'il s'agit de haïr sa vie. Il s'agit de haïr sa vie dans ce monde. Donc, c'est de haïr sa vie, sa psyché d'ailleurs, ento cosmo, dans ce monde, tauto, celui-ci, c'est-à-dire dans cette logique-là. Il faut aimer sa vie au regard de l'absolu et pas au regard des intrigues de ce monde. Sinon, on devient. Non, on dit que le pécheur a la vue courte, mais l'actualité récente montre que le pécheur a la mémoire courte aussi. Ouais, la mémoire courte, c'est pas si grave que ça. Mais il y en a qui se souviennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous les intrigues du monde. Et du coup, ça entrave la mémoire. Manifestement. En tout cas, ça ne leur donne pas bien le goût de l'éternité. Justement, le goût de l'éternité, on l'a dans l'Épître aux Hébreux, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir. Hein, c'est les Aionios, là encore. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne le goût de l'éternité, de Dieu, donc de ce qui ne va pas être altéré. On pourrait dire de façon très, très prosaïque, ce qu'on ne va pas regretter. On pourrait se dire, l'absolu, c'est ce qui ne donnera pas lieu à des regrets. Ou alors qui donnera lieu à des regrets de ce qu'on n'a pas fait éventuellement. Mais on n'en regrettera pas ce qu'on a fait. C'était un bien absolu. Oui, Nicolas.
C'est inutile de regretter. Ça ne sert à rien, le regret.
Non, bien sûr. Mais ça peut être le symptôme, le signe de quelque chose qu'on n'a pas fait alors qu'on aurait dû le faire. D'un manque, de quelque chose qui mériterait d'être amélioré, disons. Bon. Mais justement, la vie selon Dieu, c'est quelque chose qui ne devrait pas susciter de regret. Comme c'est l'heure, je vous laisse un peu là-dessus. Vous avez encore quelques phrases que vous pouvez voir. Je finis en vous disant que, justement, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de personnalisation de Léon, de cette éternité. Il y a juste cette idée que Léon, la période, ce temps-là, cette façon de désigner le temps, c'est ce qui nous oriente sur quelque chose qui n'a pas à être renié. Je prends ça parce que Jésus-Christ, qui va être une figure de la vie selon cet éon, est quelqu'un qui, justement, va jamais faire marche arrière, va jamais faire demi-tour, en quelque sorte, contrairement à Pierre, qui, lui, va renier. Vous voyez ? Il y a quelque chose, et puis vous l'avez peut-être vu dans le grec en passant, il y a un rapport aussi avec la vérité, l'aletheia. C'est ce qui, en fait, cesse d'être caché. Je finis avec cette idée que la vie des croyants est toujours en tension entre un déjà et un pas encore. Au fond, je ne vous en parlerai pas la prochaine fois, mais je vous le donne juste comme ça. Le déjà et le pas encore, c'est une notion théologique extrêmement importante qui est très bien digérée entre théologiens et bizarrement, on n'en parle jamais aux paroissiens. Alors, il faut que vous en ayez entendu parler, le déjà et le pas encore. C'est, on est dans ce monde avec ses intrigues et néanmoins, on a déjà le goût d'un autre monde possible. C'est-à-dire qu'il y a un autre ordre du monde dont on a l'intuition. C'est le royaume qui s'est approché mais qui n'est pas encore complètement là. Et le royaume de Dieu, en fait, ça a été la forme chrétienne de parler de l'éon de Dieu, de l'éternité de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est au fond ce temps caché révélé. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 16, verset 3, on parle des chrétiens ou des disciples comme de ceux qui arrivent à interpréter les signes des temps. Et pas simplement du climat. D'ailleurs, Matthieu lui dit lui-même, vous êtes capable d'interpréter le climat qui va arriver et vous n'interprétez pas les signes des temps. Alors vous en êtes capable. La foi vous permet cela. Et la foi vous permet, de ne pas être simplement soumis au déjà. Vous pouvez aussi être tendu vers le pas encore. Le royaume de Dieu s'est approché. Il est déjà là, en fait. Il est en germe. Et donc, il y a un dualisme entre cet éon-là et l'autre éon qui est le temps à venir. Et tout notre job consiste à faire le plus de place possible à cet éon qui vient. Et en tous les cas, ne pas se laisser submerger par l'éon qui est déjà là. Sacré éon.
C'est de la place, faire du rangement.
Voilà, faire de la place.